bonne nouvelle d'après Luc, lecture suivie de l'évangile de Saint Luc dans une traduction transposition de Vincent-Paul Toccoli, salésien de Don Bosco.
Chers auditeurs, je voudrais revenir sur la finale de mon précédent commentaire, parce que il y aurait tant à dire, bien sûr, et je vais vite laisser quand même la voix à Daniel, qui nous rapportera la suite de l'évangile de Luc. Mais je pense qu'il est important, si vous êtes à un feu rouge, tant mieux, vous m'écouterez d'autant mieux. Priez sans jamais se lasser, priez toujours et encore. Je voudrais revenir parce que, quand on dit prier, on pense à « Je vous salue Marie pleine de grâce » ou « Notre Père qui êtes aux cieux ». Si vous avez un peu plus de courage, un chapelet, un rosaire même, trois. Il faut même y ajouter maintenant les mystères joyeux, paraît-il, ce qui vous fait quatre chapelets. Vous voyez, à raison de quelques 20 secondes par « Je vous salue Marie », vous imaginez le nombre de temps que vous pourrez... C'est pas cela, ce dont il s'agit ici. Il ne s'agit pas de dire des choses. Prier, toujours et encore, c'est se mettre dans une disposition intérieure qui fait que va se révéler en nous, va nous apparaître clair à notre vision intérieure, des choses auxquelles on ne pensait pas. Non pas des choses que l'on dit, et l'on pense à ce qu'on dit. Non, non, des choses auxquelles on ne pense pas. Parce que il y a toujours dans notre existence des choses improbables, c'est-à-dire qui manifestement n'ont pas beaucoup de chances d'arriver et qui arrivent. L'improbable, ce n'est pas l'impossible. L'improbable, c'est quelque chose dont les conditions ne nous semblent pas être réunies pour que ça arrive. Ça vaut dans le positif comme pour le négatif. L'improbable, en ces jours où j'enregistre, c'était que l'avion de Charles Malcher ne s'écrase pas. C'était, enfin, il avait fait déjà 4 liaisons dans la journée. Pourquoi est-ce que 17 secondes après le décollage, il s'écrase et qu'il n'y ait pas un seul survivant? Mais ça arrive. Et la famille de 11 personnes qui s'est écrasée dans le crash ne savait pas en quittant Paris pour venir à Chalmacher et en repartant qu'elle partait pour l'éternité. L'imprévisible, c'est ce que nous n'avons pas les moyens de décrire comme possible. L'imprévisible, c'est aussi ça, ce qui s'est passé. Mais l'imprévisible aurait pu être aussi que l'avion se coucha sur la mer et que chacun pût sauter dans des canots et puis être sauvé. L'imprévisible, c'est l'issue d'une maladie dont on s'attend à ce qu'elle soit fatale et qui offre une rémission. L'imprévisible, c'est un travail de longue haleine que l'on poursuit depuis plusieurs années, en n'espérant plus jamais qu'il y ait un résultat, et que tout d'un coup, cela apparaît. Eh bien, dans le cœur de chacun, dans la prière, c'est ce dont il s'agit. C'est de préparer un volume, un espace, une surface, un lieu utopique, c'est-à-dire d'abord un non-lieu. Utopos veut dire non-lieu en grec. Pour en faire le lieu de l'apparition à la fois de ce qui est improbable et qui se passe, et de ce qui est imprévisible et qui se passe. La relation entre les deux, c'est notre situation vis-à-vis de Dieu. Nous en remettre à sa miséricorde. Et dans le mot miséricorde, il y a amour de Dieu, amour du cœur.
comme d'habitude, tout le monde attendait la suite. Un petit vent frisqué s'était levé et chacun s'était couvert la tête d'un pan de son manteau. Jésus était seul, tête nue, maintenant tandis que ses mèches brunes flottaient doucement dans l'air du soir. Et il y avait une fois un juge qui ne craignait pas Dieu et se moquait des hommes. Et voilà qu'un jour une veuve vint le consulter pour régler une affaire. « Rends-moi justice contre mon adversaire !» Longtemps il négligea de s'en occuper et laissant traîner les choses, mais la veuve insistait, s'entêtait, s'acharnait à le réclamer. Chaque jour, maintenant, elle se rendait exprès chez lui pour lui rappeler d'intervenir. « J'ai beau ne pas craindre Dieu et me moquer des hommes, se dit-il un jour, néanmoins, puisque cette veuve ne cesse de m'importuner, je vais lui faire justice. Comme ça, elle arrêtera de me casser la tête. » Un silence. Qu'est-ce que Jésus va bien pouvoir tirer de cette histoire? Vous avez entendu ce que dit ce juge inique? Oui, tout le monde avait bien compris que pour avoir la paix, il était décidé à accorder ce qu'on exigeait de lui. À contre-cœur, mais il l'avait fait. C'était l'essentiel, et la veuve était satisfaite. Et Dieu ne ferait pas justice à ceux qu'il aime, qui crient vers lui, jour et nuit? Il va les faire attendre? Non, je vous le dis, il se hâtera de répondre. On pensait que c'était fini. Déjà, on s'ébrouait pour s'éloigner, mais Jésus ajouta la voix complètement changée. « Mais quand je reviendrai au bout du temps, trouverai-je encore la foi sur la terre ?» Tandis qu'il faisait mine de partir, Jésus aperçut parmi ceux qui l'écoutaient des têtes connues de tout le monde d'ailleurs, les têtes d'un certain nombre qui se flattaient sans aucune pudeur d'être des gens bien et qui n'avaient de toute façon que mépris pour les autres. Mais ils étaient souvent là quand Jésus parlait, légèrement en retrait et de trois quarts sur une légère élévation en général. Les meilleures places, quoi. Comme au théâtre, ni trop près, ni trop loin. Et à leur regard, on comprenait vite qu'ils se contentaient, si l'on peut dire, de compter les points. Dans ce que disait Jésus, ils en trouvaient pour tout le monde, même pour Jésus. Jamais pour eux-mêmes, vous pensez. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Jésus revint. Déjà ceux qui partaient se réinstallaient heureux du supplément de programme. C'est qu'on n'avait pas tellement de distractions en ce temps-là. On se demandait de quelle mouche l'avait bien piqué. Parce qu'il avait un drôle d'air, l'air de celui qui va faire une surprise à laquelle on ne s'attend pas, du moins certain. J'ai envie de vous raconter encore une histoire ce soir. Elle m'est venue comme ça, subitement, au moment où j'ai reconnu certains visages. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, savant et respecté en Israël. Toutes les petites gens tournèrent la tête vers ceux où Jésus citait et ils secouaient la tête. Après un petit silence de quelques secondes, histoire de savourer, puis l'autre était publicain. D'entendre le nom de leur secte mêlé à celui infâme de la racaille la plus vile du peuple, les pharisiens esquissèrent à leur tour le mouvement de s'éloigner. Jésus se désintéressait d'eux. Mais la curiosité la plus forte, ils restèrent et s'enfermèrent encore plus dans leur morgue. « Le pharisien à la tête haute, continua Jésus, priait ainsi en lui-même. « Mon Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont rapaces, stupides, adultères, tiens, comme ce publicain-là. Mais je jeûne deux fois par semaine, je donne au temple l'impôt sur tous mes revenus. » Les pharisiens ne savaient quelle attitude prendre. Tout ce qu'ils entendaient était vrai et ils en étaient fiers. N'est pas un pharisien qui veut. Les autres auditeurs ne réagissaient pas, car eux aussi avaient bien reconnu la description des pharisiens, mais ils étaient habitués. Qui pouvait-on ? Jésus continua. Le publicain, lui, se tenait à distance. Il n'osait même pas lever les yeux de terre, mais il se frappait la poitrine en répétant avec accablement « mon Dieu, prends pitié de moi, je ne suis qu'un pécheur, je ne vaux rien. » L'atmosphère s'alourdit alors. Le petit peuple qui écoutait attentivement avait comme spontanément pris l'habitude de ce qu'il décrivait Jésus, et tandis qu'il avait parlé, beaucoup se frappaient la poitrine en secouant la tête d'avant en arrière. Mais comme Jésus s'était arrêté de parler, leur mouvement avait aussi cessé, et ils attendaient le final. Eux et les pharisiens du haut de leur dignité drapée. Eh bien, je vous le dis, tonitrua presque la voix du Nazaréen, c'est le publicain qui rentra chez lui pardonné. L'autre, non. Il n'avait même pas prononcé le nom de pharisien, comme s'il avait eu peur de se salir les lèvres. Car tout homme qui s'élève sera abaissé, mais celui qui se reconnaît tel qu'il est, lui sera élevé. Et cette fois-ci, Jésus coupa court et disparut.
Nous avons ici exactement le contenu de ce que je disais en introduction à cet épisode d'aujourd'hui. C'est-à-dire que la prière, moins elle se remplit de paroles quelles qu'elles soient, mieux elle se porte. C'est ce que j'ai découvert personnellement dans les méditations que j'ai apprises chez les bouddhistes. Le vide. Mais pas un vide où il n'y a rien. Un vide, quand on fait le vide pour pouvoir mettre quelque chose que l'on aime, faire de la place, dirait-on, faire de l'ordre, supprimer ce qui n'est plus nécessaire, vider les greniers, les soutes, les caves, pour que des choses plus importantes puissent prendre place, alors qu'il n'y avait plus de place pour cela. Que le pharisien et le publicain entrent dans le temple pour prier. C'est une chose. Que dans le cœur du pharisien, il n'y a que morgue, plein de soi, de soi-même, de son importance. Il n'y a plus de place pour le reste. Que la voix intérieure du publicain soit celle qu'il dit « Je ne suis rien, je ne peux rien, je ne sais rien ». Ce rien-là, c'est exactement celui auquel il faut atteindre. Parce que même si on sait beaucoup de choses, qu'est-ce devant la science de Dieu? Même si on a parcouru la terre entière, qu'est-ce devant l'univers? Même si l'on connaît tant et tant de personnes, qu'est-ce devant la création tout entière? La prise de conscience de cette position humaine, de cette condition humaine, n'est pas faite ou n'est pas proposée pour nous écraser ou de je ne sais quelle humilité méprisable. Il s'agit de se remplir de ce qu'il y a de mieux pour nous. Or, se remplir de ce qu'il y a de mieux pour nous, c'est de se remplir de Dieu. Et que par contamination, proximité et tout ce que vous voulez, tout cela imprègne nos tissus, notre être tout entier, psychologiquement, physiquement, intellectuellement, esthétiquement, que nous soyons sans cesse plus conformes à l'image de Dieu que nous sommes.
C'était une bonne nouvelle d'après Luc, une traduction et un commentaire de Vincent-Paul Toccoli. Daniel Chavy a prêté sa voix pour la lecture. Merci et à bientôt.